Alors, nous accueillons aujourd'hui Jean-Louis Felouz qui va nous parler de la surveillance du climat. Alors, je le présente rapidement, comme nous le faisons chaque fois. Il est né en 1947. Il est depuis 1998 délégué à l'étude et à l'observation de la Terre, à la direction des programmes au Centre national d'études spatiales, le CNES, à Paris. Il est docteur en troisième cycle en météorologie dynamique. Je retrace son parcours. De 72 à 76, il est ingénieur au Centre national d'études des télécommunications dans le département des recherches spatiales radioélectriques. 76 à 82, il est ingénieur de recherche du CNRS au Centre de recherche en physique de l'environnement. De 82 à 88, il est ingénieur au CNES, responsable des programmes spatiaux d'études de l'atmosphère et de l'océan, responsable du programme de satellites océanographiques NASA, CNES, TOPEX, Poséidon, des expériences spatiales Doris sur SPOT, etc. De 88 à 89, il est chef de la division des sciences de l'univers au CNES. De 89 à 92, il dirige la division sciences de la Terre et de l'environnement au CNES. 91-94, il dirige le groupement scientifique Média, CNES, CNRS, Météo France, CERFAX, Orstom, Université de Toulouse. Et 94-98, il est directeur du groupement d'intérêt public, GIP, Média France, qui regroupe le CNES, Météo France, Orstom, l'Université Paul Sabatier, CLS, Spot Image, etc. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, organisé des colloques aussi sur le sujet qui nous préoccupe. Il est spécialiste, comme vous l'aurez deviné, ce n'est pas à peine peut-être que je le dise, de l'étude du climat, de l'atmosphère et de l'océan et de l'observation par satellite. Et je veux surtout terminer en le remerciant vraiment tout particulièrement et très chaleureusement pour être venu ici, parce qu'il a été... Il a été victime il y a une quinzaine de jours d'un accident important de circulation qui normalement aurait dû le conduire à rester chez lui tranquillement pour continuer à se remettre. Et il a fait l'effort, comme d'ailleurs vous aussi, de venir aujourd'hui et je le remercie très chaleureusement. Donc il commentera la présentation qui sera passée par une assistante. Et je lui donne la parole donc pour une cinquantaine de minutes et ensuite il répondra, bien sûr, comme d'usage, à vos questions. Merci.
Bien, merci Yves Michaud. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'avoir bravé les intempéries puisque nous sommes ici pour parler du climat. Et d'avoir préféré l'Université de tous les savoirs au défilé du 14 juillet, en espérant que vous retirerez aujourd'hui une impression de ce que le regard des satellites apporte à la surveillance du climat. Nous sommes le 14 juillet, si nous reportons 212 ans en arrière, le 14 juillet 1789, je ne vais pas vous faire de révélation, on ne disposait pas à cette époque-là de satellites pour observer la Terre. Mais si un tel engin avait existé, il aurait vu une planète 10 fois moins peuplée, rurale, des forêts couvrant la plupart des zones tempérées, une forêt primaire équatoriale intacte, une agriculture manuelle, sans engrais, une production fondée sur l'énergie humaine et animale, le chauffage au bois, pas d'utilisation de combustibles fossiles. Comme chacun sait, le 14 juillet 1789 a été une journée très chaude, mais ce n'était qu'un début. L'essor de la révolution bourgeoise, les bouleversements qu'elle a engendrés, le passage à l'agriculture intensive, les changements d'occupation des sols, la révolution industrielle, l'utilisation massive du charbon, du pétrole, et puis la croissance de la population mondiale ont produit aujourd'hui un impact sur le climat qui est susceptible d'affecter durablement les conditions de vie sur la Terre. Les satellites dont nous disposons donc aujourd'hui nous permettent de décrire le climat actuel, nous renseignent sur les bouleversements qui résultent de l'activité humaine et sur leurs impacts, et ils peuvent nous aider à faire face aux défis que pourrait représenter pour notre espèce la vie sur une planète au climat un petit peu chamboulé. Alors, les questions brûlantes qui se posent à nous en ce début du XXIe siècle se nomment accroissement de la concentration de gaz à effet de serre, réchauffement global, élévation du niveau de la mer, El Niño, trous d'ozone stratosphérique, déforestation, désertification et dégradation des sols, événements extrêmes, tempêtes, inondations et autres catastrophes. Le public qui reçoit ces informations et qui est des fois un petit peu désorienté par une information un peu désordonnée confond souvent les excès de la météorologie et les désordres qui peuvent résulter de l'altération du climat. Donc on va essayer aujourd'hui de clarifier un petit peu ces choses-là. Tout d'abord, qu'appelle-t-on le climat ? Le climat, le mot vient du grec, il signifie inclinaison. Il découle de l'observation assez ancienne que les régions comprises entre les tropiques reçoivent beaucoup plus de chaleur du soleil que les régions polaires qui sont plongées dans l'obscurité une partie de l'année. Par conséquent, le temps qu'il fait en un point de la Terre dépend d'abord de sa distance à l'équateur. Le même type de temps règne peu ou prou en tout point de la même latitude, chaud à l'équateur et sous les tropiques, tempéré agrémenté de saisons alternées aux latitudes moyennes et glaciales aux pôles. Mais ceci est un schéma ultra simplifié. Il est assez bon, comme le montre cette carte satellite, des températures de surface de la mer qui suivent une distribution zonale, c'est-à-dire parallèle au cercle de latitude, mais ce schéma ne suffit pas. Le climat est un système dynamique qui varie sous l'effet de facteurs internes et externes. Les composantes internes du climat sont l'atmosphère, l'océan et les glaces, les continents, mais aussi les plantes, les animaux et les populations humaines. L'atmosphère est le siège de mouvements et d'échanges rapides. Elle est responsable des variations à court terme, c'est-à-dire la météorologie, le temps qu'il fait. L'océan, qui a une capacité calorifique élevée, contrôle les variations climatiques à moyen et à long terme, des décennies aux siècles et aux millénaires. Et enfin, l'interaction entre l'atmosphère et l'océan est responsable des variations d'échelle intermédiaire, c'est-à-dire saisonnière, annuelle, interannuelle, comme par exemple l'oscillation australe, le fameux El Niño, ou l'oscillation nord-atlantique, qui se traduisent localement par l'existence d'années plus ou moins chaudes, plus ou moins humides, la survenue d'événements extrêmes, etc. Même si on considère les valeurs moyennes sur l'année, l'apport d'énergie solaire est beaucoup plus important sous les tropiques qu'au pôle. Ce déséquilibre est le moteur de la circulation atmosphérique et de la circulation océanique. L'atmosphère et l'océan contribuent à parts égales à redistribuer l'excédent de chaleur des régions reçues dans les régions tropicales vers les latitudes élevées. Et d'autre part, il y a des courants froids profonds qui ramènent de l'eau froide des régions polaires vers les régions tropicales. De la même façon, la zone dans laquelle le soleil apporte le maximum d'énergie se déplace en fait selon les saisons, et là encore, ce sont des mouvements de l'atmosphère et des courants marins qui contribuent à adoucir les contrastes saisonniers. Voici ici un exemple de thermographie satellitaire qui permet de cartographier les courants superficiels, comme le Gulf Stream, qui transporte les eaux chaudes tropicales vers les régions de haute latitude de l'océan Atlantique, et de la même façon, le Kuroshio dans le Pacifique. Ce sont des courants de bord ouest des océans qui sont bien connus, mais avec l'image satellitaire, on voit ici leurs détails dans toute sa complexité. Alors, comment marche le climat ? En pratique, on appelle climat la moyenne du temps observé sur plusieurs années pour une région et une saison particulière. On utilise habituellement des moyennes sur 30 ans. Alors, qui dit moyenne, dit variabilité autour de cette moyenne, et cette variabilité doit être distinguée des modifications consécutives à un changement de l'un des termes qui régissent le climat global. Voyons quels sont ces termes, et d'abord, comment fonctionne la machine thermique qu'est la Terre. C'est une machine qui reçoit le flux d'énergie en provenance du Soleil, qui en rejette une partie vers l'espace, transforme l'énergie reçue en chaleur, et rayonne cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge terrestre. L'effet qui consiste à renvoyer une partie de la lumière vers l'extérieur, c'est l'albédo, qui désigne la fraction du flux solaire réfléchi vers l'espace, ce que Robert Kandel appelle l'effet parasol, et une fraction du rayonnement infrarouge terrestre reste piégée dans les basses couches de l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, si on considère ces trois termes, des changements du climat pourront avoir lieu dans trois circonstances. Premièrement, si le flux solaire varie, soit parce que le Soleil lui-même varie, ou parce que varient les conditions d'éclairement de la Terre, distance Terre-Soleil, inclinaison de l'axe de la Terre sur son orbite, ou bien, deuxièmement, si l'effet parasol varie, ce qui peut résulter d'une modification de l'albédo planétaire, par exemple, suite à une éruption volcanique, ou un changement du couvert nuageux, ou des propriétés de surface des continents. Et troisièmement, si l'effet de serre varie, en raison d'un changement de la composition de l'atmosphère. L'effet de serre. L'atmosphère est assez transparente au rayonnement visible, mais assez opaque au rayonnement infrarouge. 70% du rayonnement solaire entrant est absorbé à la surface, 90% du rayonnement infrarouge émis par la surface est absorbé par l'atmosphère qui reçoit en fait donc deux fois plus d'énergie du sol que du soleil. En fait, l'atmosphère est chauffée par le bas et elle rayonne à son tour. L'effet de serre dont on parle n'est autre que le piégeage par certains gaz de l'atmosphère d'une partie du rayonnement infrarouge terrestre, dont seulement 60% s'évadent vers l'espace par le jeu des absorptions et rémissions successives. La physique nous apprend que les gaz qui ont trois atomes ou plus absorbent l'infrarouge. Vous savez que 99% de l'atmosphère est formée d'azote et d'oxygène, qui sont des molécules diatomiques. Les gaz à effet de serre sont des molécules à plusieurs atomes, comme la vapeur d'eau, le gaz carbonique, l'ozone, le méthane, qui sont présents en quantité infime, au total moins de 1%. La vapeur d'eau est le constituant qui fournit la plus grande contribution à l'effet de serre, mais son temps de résidence dans l'atmosphère est court, de l'ordre de quelques jours. Par contre, le gaz carbonique y a une durée de vie beaucoup plus longue, de l'ordre de 200 ans. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés, au lieu des environ plus 15 degrés que nous avons actuellement. Je ne parle pas d'aujourd'hui. L'effet de serre est excellent puisqu'il fait de cette planète un lieu d'habitation idéal pour notre espèce. S'il n'y avait pas d'effet de serre, toute l'eau sur la Terre serait probablement glacée. Heureusement, il n'en est rien. Cette vue de la Terre est, à mon sens, une image fondatrice. On y voit, photographiée, je crois, depuis la Lune, un lever de Terre. Cette vision est aujourd'hui banalisée, mais elle a joué un rôle puissant pour faire percevoir la beauté, la fragilité, mais aussi, surtout, le caractère unique de la planète bleue qui nous héberge. Le climat de cette Terre est notre bien commun. Aucun corps céleste voisin n'est susceptible d'accueillir l'humanité si son environnement venait à être détruit. Mais on voit aussi que l'espace est un lieu privilégié pour observer la Terre, pour en acquérir une vision globale, comprendre les mécanismes qui la gouvernent, surveiller son évolution, détecter les perturbations qui l'affectent. D'où l'importance prise par les satellites artificiels. Seulement voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les satellites obéissent aux lois de la mécanique céleste. On s'est donc efforcé de choisir les meilleurs points de vue pour observer la Terre en s'accommodant des contraintes du vol orbital et en exploitant ses mérites afin d'obtenir un échantillonnage spatio-temporel compatible avec les caractéristiques des phénomènes étudiés. Pour observer la Terre dans de bonnes conditions, il y a deux classes d'orbites privilégiées. D'une part, l'orbite dite géostationnaire, qui est très éloignée de la surface, qui offre beaucoup d'avantages pour l'observation continue de vastes portions de la surface terrestre et de l'atmosphère, mais qui a l'inconvénient qu'un seul satellite ne suffit pas pour voir toute la Terre. D'autre part, les orbites basses à défilement, et notamment les orbites à forte inclinaison qu'on appelle polaires, qui permettent le survol de toute la Terre par un seul satellite en une journée. Le satellite parcourt environ une quinzaine d'orbites, dont la trace au sol est écartée d'environ 2800 km à l'équateur. Les météorologistes sont les principaux utilisateurs des satellites géostationnaires. Vous avez tous vu les images des satellites européens Meteosat, dont 7 exemplaires ont déjà été lancés. On s'apprête à lancer une deuxième génération de ces satellites qui offriront des performances améliorées. Les États-Unis exploitent le système GOES, qui comporte 2 satellites, et il y a encore 2 autres satellites opérationnels, japonais et indien, ainsi qu'un satellite russe et un satellite chinois en orbite géostationnaire, qui complètent ce que l'on appelle la veille météorologique mondiale. Les observations recueillies depuis une trentaine d'années par ces satellites opérationnels ont permis d'établir à l'échelle globale une véritable climatologie de nombreux paramètres, notamment la nébulosité, hors d'accès des mesures effectuées à partir du sol ou in situ. L'orbite géostationnaire donc, est une orbite circulaire d'altitude 36 000 km dans le plan équatorial. La période de rotation des satellites y est de 24 heures, ce qui fait que le satellite paraît immobile par rapport au sol. Il y règne une concurrence féroce entre les services météorologiques et les opérateurs de satellites de télécommunications et de télévision, qui ont aussi trouvé cette orbite extrêmement commode pour leurs activités. Elle offre une couverture quasi permanente, des observations répétées toutes les demi-heures ou toutes les 15 minutes maintenant, mais limitée en latitude et en longitude. Du fait de la distance entre le satellite et le sol, les images acquises sont de faible résolution, chaque point représente environ quelques kilomètres. Elles sont difficiles à interpréter aux fortes inclinaisons, et l'éclairement en chaque point est fonction de leur local. Dans l'avenir, on espère atteindre des résolutions fines en zoomant sur de petites zones, on atteindra peut-être quelques dizaines de mètres, ce qui en ferait un outil idéal pour la surveillance des catastrophes comme les cyclones. Ici, vous en avez un exemple de l'ouragan Floyd aux États-Unis en 1999, ou les inondations. Les orbites à défilement. Alors, les satellites en orbite circulaire basse, eux, sont à des altitudes comprises entre 500 et 1000 km, inclinés à environ 90 degrés sur l'équateur. Ces orbites permettent d'acquérir des images à haute résolution, contrairement aux géostationnaires. Le plus souvent, on fait en sorte que le plan de l'orbite dérive à chaque passage de telle manière que le satellite croise un cercle de latitude à la même heure locale. Ces orbites, on les appelle héliosynchrones, et elles sont idéales car elles garantissent une variation minimum des conditions d'observation. L'angle solaire est constant pour chaque image, et la conception des satellites est elle-même extrêmement simplifiée. Dans quelques cas, au contraire, on a besoin d'orbites non héliosynchrones si on veut suivre des phénomènes variables en évitant l'effet stroboscopique avec les variations diurnes comme les marées, par exemple, et c'est le cas du satellite océanographique Topex Poséidon. On utilise aussi des orbites à faible inclinaison sur l'équateur, chaque fois qu'on veut observer des zones tropicales où se déroulent les principaux échanges d'énergie du système climatique, et c'est précisément un des cas qui nous intéresse. Dans tous les cas, on cherche à réaliser le meilleur compromis possible entre deux exigences qui sont contradictoires, celle de la fréquence de répétition des observations, c'est-à-dire du passage tous les N jours, le plus souvent possible, du satellite à la verticale du même point, et celle de la couverture spatiale de toute la surface terrestre dans un temps donné. Et on ne peut pas avoir les deux avantages en même temps. Alors, je vais essayer d'illustrer un peu cette question avec quelques exemples de traces au sol d'orbites de satellites et du champ de vue des instruments qu'elles emportent. D'abord, vous avez ici l'orbite du satellite SPOT sur 24 heures. Les traces montantes, que vous voyez comme ceci, pas terrible, sont situées du côté jour de la Terre. Les traces descendantes, que vous voyez là, sont situées du côté nuit. Au bout d'une journée entière, la trace du satellite va se reproduire, légèrement décalée, de sorte que les traces ne se superposent exactement qu'au bout de 26 jours. Le satellite peut ainsi acquérir des images à la verticale de tout point du globe avec cet intervalle de temps. Si on veut des images plus fréquentes, on utilise un miroir qui permet des prises de vue latérales. Alors, les gens pensent assez souvent que le ciel est plein de satellites espions qui sont capables de photographier à tout instant la marque de leur cigarette, mais en fait, il n'en est rien. Deuxième exemple, celui de Topex Poséidon. Le champ de vue de SPOT couvrait les régions polaires, on le voit encore un peu ici. Topex Poséidon se borne à survoler les océans avec une orbite inclinée à 63 degrés qui se répète exactement tous les 10 jours. Ce cycle est suffisant pour résoudre les courants océaniques de grande échelle, mais pas pour observer les tourbillons d'évolution rapide comme ceux du Gulf Stream qu'on a vu tout à l'heure. Pour cela, il faudrait repasser plus souvent sur les mêmes traces, mais ce serait naturellement au détriment de la densité de la couverture spatiale. Les caméras de SPOT ont un champ étroit de 60 km. L'altimètre de Topex Poséidon vise seulement à la verticale, sous la trace, mais il y a aussi des instruments à grand champ de vue. Premier exemple, celui d'un spectromètre ultraviolet qui s'appelle GOM, qui mesure le contenu intégré en ozone de l'atmosphère. On voit ici la région couverte par les observations en 24 heures. Le lendemain, les champs de vue sont alternés, de sorte qu'on observe la totalité de la Terre en un ou deux jours. Les zones bleues ici montrent le déficit d'ozone. Cette image doit dater d'un mois de septembre, je crois, en 99. Deuxième exemple, celui de l'instrument Végétation, qui équipe le satellite SPOT 4 et bientôt le satellite SPOT 5, et qui couvre la quasi-totalité de la surface terrestre en 24 heures. Donc, on voit tout, sauf les petites zones que vous voyez ici en noir, autour des régions tropicales. On constate sur cette image qu'une bonne partie de l'image est couverte de nuages, et il y en a presque entre la moitié et les deux tiers. Il faut donc mélanger les images sur plusieurs jours consécutifs pour obtenir une image claire. À quoi ressemblent les satellites ? À part les géostationnaires qui sont pour la plupart cylindriques et en rotation sur eux-mêmes, ce qui assure le balayage de l'image, on trouve des satellites pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Pendant un certain temps, la tendance a été à la construction de grosses plateformes multi-instruments, comme la série américaine EOS, ou bien le satellite européen Envisat, qui sera lancé au mois d'octobre, ou encore le satellite japonais Adeos. Mais les risques qui sont associés à ces grosses plateformes, chères, complexes et rarement optimisées pour toutes les missions à la fois, plus les progrès de la miniaturisation font qu'on préfère aujourd'hui, et en plus en bénéficiant de la baisse du coût des lanceurs, des mini-satellites spécialisés, comme le satellite Jason ici, voire même des micro-satellites pour l'expérimentation de nouveaux concepts, des satellites qui sont dans la gamme d'une centaine de kilos. Une fois que nous sommes dotés de satellites, il faut les équiper d'instruments adéquats. La première idée a consisté à adapter aux satellites des techniques éprouvées au sol, en avion ou en laboratoire, en tenant compte des complications liées à l'altitude et au mouvement du porteur. Plus récemment, on a au contraire cherché à mettre en œuvre des techniques purement spatiales, hors de portée des mesures au sol. Les instruments se partagent en deux grandes classes. Les capteurs passifs équipés de détecteurs qui enregistrent à bord du satellite le rayonnement électromagnétique émanant de la surface terrestre et de l'atmosphère. Et deuxième classe, les capteurs actifs qui comportent un émetteur en ondes radio dans le cas des radars ou en ondes lumineuses dans le cas des lidars et un récepteur qui analyse les propriétés du signal retour. Du côté des capteurs passifs, on trouve toute une gamme d'instruments dans toutes les longueurs d'onde, du visible à l'infrarouge et aux hyperfréquences, pour mesurer l'intensité du rayonnement ou pour analyser sa composition spectrale. Certains instruments se bornent à observer un point, d'autres forment une image, certains visent à la verticale ou au limbe pour sonder l'épaisseur de l'atmosphère, ou encore par occultation, par exemple en observant l'absorption par l'atmosphère du rayonnement d'une étoile à l'horizon. Les capteurs se sont améliorés à mesure des progrès réalisés dans la fabrication de détecteurs. La difficulté principale des capteurs passifs tient aux corrections qu'il faut apporter pour extraire le signal du bruit atmosphérique qui représente en fait plus de 90% du rayonnement reçu à bord. Les capteurs actifs transportent leur propre source, ils sont plus exigeants, ils illuminent la cible. On n'a pas le problème de la correction atmosphérique des capteurs passifs, mais cela pose des problèmes de puissance, de taille des antennes radars ou des télescopes dans le cas des lidars. Enfin, il y a d'autres techniques qu'il faut mentionner qui exploitent les perturbations de l'orbite pour déterminer certains paramètres atmosphériques, ou encore la microaccélérométrie, qui est une grande spécialité nationale de l'ONERA, qui permet la mesure ultra fine du champ de gravité, essentielle pour l'océanographie. Alors, je vais consacrer quelques instants aux principales techniques et à leurs performances. La France a lancé il y a 15 ans le premier satellite SPOT. SPOT 4 a été lancé en 1998, voilà la première image de SPOT 4. Et en 2002, nous allons lancer SPOT 5, qui portera la résolution des images de 60 km de côté acquises par ces caméras optiques multispectrales de 10 mètres à 2,50 m. Les images SPOT sont aujourd'hui familières au grand public et se prêtent à toutes sortes d'utilisations, principalement pour la cartographie. Il y a une conférence dans quelques jours, je crois, qui va parler plus en détail de ces affaires de télédétection. La nouvelle génération de satellites d'imagerie offrira une résolution de l'ordre du mètre, qui était autrefois réservée aux satellites militaires, au détriment de la fauchée qui se réduit à ce moment-là à 10 km pour les satellites américains Iconos, mais qui atteindra 20 km pour les futurs satellites français Pléiade. Ces images sont très belles, mais elles sont peu utiles pour l'étude du climat du fait de leur taille limitée. Néanmoins, elles permettent la surveillance des impacts climatiques et la validation à petite échelle d'observation des instruments à grand champ, par exemple sur la forêt tropicale. Il y a une archive de 8 millions d'images SPOT sur 15 ans qui permet aussi de retracer les changements sur de longs intervalles de temps. Un autre type d'imagerie par satellite est d'un intérêt considérable pour l'étude du climat. Il s'agit de l'imagerie à grand champ et à résolution grossière, dans laquelle chaque point ou pixel de l'image représente une tache au sol de 1 km environ. Le radiomètre AVHRR, qui est un nom barbare, qui équipe les satellites météorologiques polaires américains depuis 25 ans, est le prototype de ce genre d'instrument. Conçu à l'origine pour la cartographie détaillée du couvert nuageux et de la température de surface de la mer, il s'est avéré aussi excellent pour décrire les caractéristiques et évolutions du manteau végétal sur les surfaces continentales. Alors, sur le même principe, nous avons un instrument français, Végétation, qui est construit en coopération avec plusieurs partenaires européens et qui a été optimisé pour la surveillance de la végétation, précisément, qui apporte chaque jour une image globale des couverts végétaux, comme celle que nous avons vue tout à l'heure. Pour se débarrasser des nuages, on fabrique des synthèses sur 10 jours, des synthèses décadaires. Vous voyez ici une image à pleine résolution sur la France qui montre bien les zones couvertes de forêt. Vous reconnaissez ici la forêt des Landes, les plaines cultivées, les zones montagneuses. Et ces images se prêtent bien à l'agriculture, mais à l'échelle globale, elles permettent aussi de surveiller et de quantifier l'ampleur de la déforestation au Brésil, sur cette image ici, ce qui nous ramène au climat. D'autres capteurs analogues, comme Polder, Scarabée, s'intéressent aux nuages, aux aérosols, à la biosphère marine ou encore à la mesure directe du bilan radiatif de la Terre. Vous avez ici une image réalisée par les chercheurs du Centre d'études spatiales de la biosphère à Toulouse, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Orsay, qui ont combiné des cartes moyennes de la végétation terrestre et du phytoplancton marin tirées des données de l'instrument français Polder, qui a volé à bord du satellite japonais Adeos, ce qui donne une image impressionnante de la photosynthèse globale en novembre 1996. Autre technique importante pour la surveillance du climat, le sondage atmosphérique pour déterminer le profil vertical de certains paramètres physiques, comme la température, le vent, ou constituants atmosphériques, l'humidité, l'ozone et d'autres composés minoritaires. Pour cela, on a des méthodes passives qui sont fondées sur l'inversion de mesures spectrométriques dans différents domaines de longueur d'onde, essentiellement infrarouges et micro-ondes. Mais ces méthodes sont limitées en termes de résolution verticale et de précision de la restitution des paramètres intéressants. On place aujourd'hui beaucoup d'espoir dans l'interférométrie infrarouge, qui est le principe d'un instrument qui s'appelle YASI, qui est développé par le CNES et l'agence européenne EUMETSAT et qui devrait équiper les futurs satellites météorologiques en orbite polaire, METOP. Mais on attend aussi beaucoup des capteurs actifs, notamment le radar pour la mesure des précipitations, dont on ignore en fait aujourd'hui encore la climatologie sur les océans, et le LIDAR, qui repose sur l'analyse de l'écho renvoyé par l'atmosphère à une impulsion laser, c'est le cas de l'instrument transporté par ce satellite ici, qui permet, selon la longueur d'onde et la technique employée, de mesurer les caractéristiques des nuages, des aérosols, la teneur de certains constituants atmosphériques ou encore, par effet Doppler, le profil de vent dans la troposphère. Plusieurs satellites expérimentaux de la NASA américaine, de la NASDAQ au Japon, du CNES et de l'Agence spatiale européenne doivent qualifier ces techniques nouvelles dans les prochaines années. Alors, toutes ces différentes méthodes dont je viens de parler sont toutes démontrées au sol, ont fait leurs preuves ou sont en passe de le faire dans l'espace. Les observations qu'elles apportent fondent notre connaissance du climat actuel et notre capacité à détecter des changements éventuels. Tournons-nous maintenant un petit peu vers des techniques purement spatiales qui sont sans équivalent au sol et qui tirent le meilleur parti de l'observation depuis une plateforme en orbite. Un cas exemplaire est celui de l'altimétrie océanique. Je ne m'étendrai pas longuement sur cette technique puisque Pierre Bahurel reviendra en détail dans sa conférence demain sur ce sujet. En quelques mots, cette technique s'appuie sur la mesure ultra précise par radar de l'altitude du satellite par rapport à la surface océanique. La précision est de 2 cm pour un satellite volant à 1336 km d'altitude. Et la détermination avec la même précision de la position du satellite dans un référentiel géocentrique par une combinaison de mesures radioélectriques, notamment GPS et DORIS, et par poursuite laser. Il est ainsi possible de reconstituer ce qu'on appelle le relief dynamique de la surface océanique, dont les creux et les bosses, à l'image des hautes et des basses pressions de l'atmosphère, constituent la signature superficielle des courants qui traversent l'océan. C'est une technique assez récente, mais l'altimétrie a représenté une révolution pour l'océanographie, qui était jusque-là tributaire de mesures par bateau, qui sont imprécises et qui ignorent de vastes espaces océaniques. Tous les 10 jours depuis août 1992, le satellite franco-américain Topex Poseidon délivre une carte des courants marins qui dépasse en détail la connaissance acquise au cours de siècles de mesures en mer. On reconnaît ici, par exemple, les grands gyres qui occupent le centre des océans, les courants de bord ouest dont j'ai parlé tout à l'heure, la dérive périantarctique. Dans 2 mois, nous devrons lancer le satellite Jason, qui est un mini-satellite qui continuera ses observations jusqu'en 2005. D'autres techniques actives, par radar à visée latérale, permettent la mesure du vent à la surface de la mer, de la hauteur des vagues, de la houle. L'océan est opaque au rayonnement magnétique et électromagnétique, ce qui limite les observations satellitaires à sa surface. Cependant, on dispose aussi, grâce au satellite, d'une capacité de collecte et de localisation de données, notamment avec le système Argos, qui rend possible l'acquisition de mesures à partir de bouées et de flotteurs profonds instrumentés et dispersés dans l'océan mondial. J'avais mentionné en préambule le rôle de l'interaction entre l'océan et l'atmosphère en région tropicale dans la modulation du climat aux échelles annuelles et interannuelles. L'exemple type de ce genre de variation climatique est l'oscillation australe, plus connue sous le sobriquet d'El Niño. Ce que l'on voit ici, c'est une carte du relief océanique. Le bleu représente un creux, le rouge une bosse. Au début de la séquence, au printemps 1997, l'océan Pacifique présentait une pente ascendante d'est en ouest due aux vents alizés qui repoussent les eaux vers les côtes de l'Asie. Et la dénivellation représente environ 40 cm sur la largeur du bassin, c'est-à-dire plus de 10 000 km. Dans le courant de l'année, il s'est produit un affaiblissement des alizés qui se traduit par un basculement de la situation avec une élévation du niveau des eaux à l'est et au bout du compte, un renversement complet de la pente. Et la situation s'inverse à nouveau au début 1998 et dans le cas de cet El Niño, 97-98, qui est le plus important jamais observé, s'est allé jusqu'à une accentuation de la pente de l'océan vers l'est, qu'on appelle la Niña par opposition. Si on s'intéresse à la température de surface de l'océan, elle se caractérise habituellement par une langue d'eau froide qui s'étend d'est en ouest le long de l'équateur, des côtes du Pérou jusqu'au centre du bassin, et une vaste étendue d'eau chaude à l'ouest. En présence d'El Niño, comme on le voit ici, les eaux chaudes gagnent le centre du bassin, puis s'installent le long des côtes du Pérou, ici, aux alentours de Noël, là on est au mois de novembre, vous allez voir, d'où le nom donné au phénomène par les pêcheurs péruviens, dont les prises sont catastrophiques à cette occasion, qui surviennent à des intervalles de 3 à 7 ans environ. La presse a popularisé ce phénomène intermittent, connu depuis un siècle des riverains de l'Est du Pacifique, mais ce qu'on a vu avec l'observation spatiale de la température de surface de la mer et de la topographie, c'est qu'on a affaire à un phénomène qui affecte en réalité l'ensemble du bassin, c'est-à-dire un tiers de la surface terrestre. Ce phénomène El Niño n'est pas le résultat d'un changement climatique, c'est une anomalie climatique normale, si je puis dire. La variabilité, c'est une caractéristique intrinsèque du climat. Les impacts d'un épisode El Niño atteignent toutes les régions de la Terre, comme on le voit ici, il y a un excès de chaleur dans certaines régions, d'humidité, ou au contraire de sécheresse, comme au-dessus de l'Australie ou en Indonésie, ce qui avait provoqué des incendies de forêt considérables il y a plusieurs années. L'observation spatiale a donc été déterminante pour percevoir l'envergure de ce type de phénomène. Elle permet maintenant de prévoir leur survenue et éventuellement d'adopter des comportements de précaution adéquats. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, c'est un scoop, un El Niño serait en train de se développer pour Noël 2001. La disponibilité prochaine tout à la fois de mesures satellitaires et d'un réseau de flotteurs profonds disséminés dans l'océan mondial, dont les données seront recueillies par satellite, ouvre la voie à une océanographie opérationnelle capable de nous renseigner sur le temps de l'océan, comme le fait la météorologie pour l'atmosphère. Il y a là un enjeu essentiel pour la surveillance du climat. Je ne peux pas résister à vous montrer la prévision établie dans le cadre du projet Mercator, auquel contribuent 6 organismes français, qui publient maintenant un bulletin hebdomadaire depuis janvier de prévisions océaniques à 7 et 15 jours pour de nombreux paramètres de surface et en profondeur à destination des usagers de l'océan. Pour plus de détails, vous aurez demain la conférence de Pierre Bahurel, qui est le chef du projet Mercator et qui vous montrera la prévision de la semaine prochaine et de la semaine suivante. Jetons un dernier coup d'œil sur une autre technique qui donne toute sa mesure à bord des satellites, même s'il y a des instruments aéroportés. Il s'agit du radar à synthèse d'ouverture, qu'on appelle aussi le SAR, qui se sert du mouvement du porteur pour simuler une antenne de grande dimension et qui utilise l'information de phase des échos reçus à différents instants en provenance d'une même cible pour restituer les caractéristiques de cette cible avec une résolution très fine. Complexe, s'appuyant sur des moyens de calcul importants et des techniques radar évoluées, l'imagerie SAR est aujourd'hui banalisée. Les satellites européens ERS1, ERS2, japonais JURS, canadiens RadarSat ont mis ce genre d'image à disposition de nombreux utilisateurs, et puis les progrès des moyens de calcul mettent maintenant leur traitement à portée d'un PC de bureau. Les avantages du radar résident d'abord dans la capacité d'observation tout temps, de jour comme de nuit, et à travers la couverture nuageuse, si l'on choisit bien sa fréquence. Mais les inconvénients sont la difficulté d'interprétation des images en micro-ondes. Nos yeux ne voient pas en micro-ondes, on ne comprend pas très bien ce qu'on voit, toujours, mais on a fait quand même des progrès importants. Un développement original du SAR est l'interférométrie, dans laquelle on utilise deux images prises à des instants différents ou par deux satellites différents, dans lesquels les travaux de mon collègue Didier Massonnet du CNES, qui est inventeur du concept de roue interférométrique illustré ici, ont fait faire des pas importants. Appliqué à la détermination de mouvements extrêmement faibles, l'interférométrie permet de mesurer les déplacements post-sismiques, le gonflement des volcans, les affaissements de terrain avec une précision centimétrique. En ce qui concerne le climat, cette technique est aussi très prometteuse pour la surveillance des calottes glaciaires et de leur évolution en présence d'un réchauffement climatique. Donc, si je résume rapidement l'apport des satellites à l'étude du climat, il y a les avantages qui sont la couverture globale, homogène, répétitive, la fourniture de mesures objectives, étalonnées, validées, la réception et le traitement des données centralisées, la capacité unique d'observation d'un certain nombre de paramètres, hors d'accès autrement, le coût acceptable par rapport à des mesures équivalentes, ou des séries de mesures équivalentes depuis le sol. Il y a quand même quelques inconvénients et quelques difficultés, le délai de revisite est parfois élevé, la maille des observations un peu grande, l'interprétation des mesures peut être délicate, l'étalonnage est complexe, le problème de comparaison des données sur de longues périodes de temps, parce que les satellites évoluent, les instruments dérivent, est parfois difficile, les conditions d'accès aux données, le coût, la localisation, la complexité des traitements, l'incapacité d'observer certains paramètres sont aussi des inconvénients, et les systèmes, malgré tout, restent quand même d'un coût élevé et d'un long temps de développement. Voilà, maintenant, il ne suffit plus de décrire le climat, il faut aussi surveiller son évolution. Les experts du groupe intergouvernemental sur le changement climatique, établi par les gouvernements mondiaux sous l'égide des Nations Unies, publient cette année leur troisième rapport d'évaluation qui affirme « Le climat de la Terre est en train de changer sous l'action de l'activité humaine ». Mais ce qui reste à préciser, c'est l'ampleur de ce changement, à la fois en fonction des mesures des correctives qui pourraient être prises et en tenant compte de l'incertitude persistante de nos connaissances sur la dynamique du climat en situation de déséquilibre. Alors nous allons revenir maintenant sur les facteurs qui contrôlent le changement du climat. J'ai parlé des forçages naturels, il y a des variations d'origine astronomique du rayonnement solaire incident, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui sont liés aux fluctuations de l'orbite terrestre, l'inclinaison, l'excentricité, la précession des équinoxes, et qui déterminent des cycles longs, 10 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans. 21 000 ans, pardon, 40 000 ans, 100 000 ans. Il y a aussi les éruptions volcaniques. Alors là, c'est une autre échelle de temps, ces éruptions peuvent perturber le climat sur quelques années. Et maintenant, il y a les facteurs internes du système climatique qui sont, par exemple, l'albédo et la composition de l'atmosphère qui agissent soit pour moduler l'effet parasol et l'effet de serre, ou l'effet de serre que j'avais évoqué au début. L'intervention humaine se situe au niveau des changements d'occupation des sols, de la déforestation, de la dégradation des sols, qui est la source principale de désertification de nombreuses régions, mais principalement, pour les trois quarts, l'activité humaine est responsable de l'émission de gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique et le méthane, et d'autres polluants, comme les fréons, à la fois gaz à effet de serre et agents catalytiques de la destruction de l'ozone stratosphérique, et enfin de particules d'aérosol. Tous ces composés, à l'exception des fréons, existent dans la nature à l'état de traces infimes, mais, et c'est ce qui fait qu'il y a un effet de serre naturel, mais leur efficacité est telle qu'ils agissent en présence de quelques parties par million. Vous avez ici quelques chiffres. Le CO2, c'est 360 parties par million dans l'atmosphère. le méthane 1,8 parties par million, le protoxyde d'azote 0,3 parties par million, les CFC c'est des parties par milliard, etc. L'atmosphère neutre s'étend sur une centaine de kilomètres d'épaisseur. Si on la ramène à des conditions uniformes de température et de pression, celles qui règnent au niveau de la mer, l'épaisseur de l'atmosphère ne serait que de 8 kilomètres, qui seraient pour la plupart occupés par l'azote et l'oxygène. Dans cette atmosphère réduite, l'ozone stratosphérique qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets ne formerait qu'une pellicule de 3 mm environ, sur 8 km. Vous voyez que c'est un paradoxe de la planète Terre, que les plus petites échelles peuvent régir l'ensemble du système, ou au moins le perturber gravement. Je me suis amusé à calculer l'épaisseur réduite de l'espèce humaine, qu'on considère comme 6 milliards d'individus de 60 litres qu'on étalerait en couches fines sur la surface de la Terre, on aurait une épaisseur d'un demi-micron. C'est dire la capacité de nuisance de l'espèce humaine. Alors, voyons un peu maintenant les facteurs de ce changement climatique. D'abord, le gaz carbonique, il résulte de l'utilisation des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Sa concentration atmosphérique, qui est mesurée au sommet de volcans isolés du Pacifique depuis les années 50, croît sans cesse, comme le montre la courbe de gauche, ici, dont les fluctuations, puisqu'on voit des oscillations, représentent la respiration annuelle de la biosphère continentale, qui est modulée par la prépondérance de l'hémisphère nord. À droite, vous avez la concentration de gaz carbonique enregistrée par les bulles d'air piégées par les gaz de l'Antarctique. Et si vous avez de bons yeux, vous voyez qu'elle a évolué entre 180 et 270 parties par million au cours des 420 000 dernières années. 420 000 ans pendant lesquels le CO2 n'est jamais sorti de cette fenêtre. Au rythme alterné des glaciations et des périodes chaudes, les cycles de Milankovitch que j'ai mentionnés tout à l'heure. En 2001, nous en sommes à 370 parties par million. Et à la cadence actuelle, en 2100, nous serons ici à plus de 600 parties par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc on voit que chaque molécule de CO2 que nous mettons dans l'atmosphère, c'est un cadeau pour nos enfants, pour nos petits-enfants jusqu'à la sixième génération, puisque ce gaz séjourne 200 ans dans l'atmosphère. On voit bien que le système Terre, qui n'est jamais sorti de cette zone d'équilibre pendant au moins 420 000 ans et probablement même plusieurs millions d'années, il a oscillé librement à l'intérieur de cette fourchette. Alors on est complètement sorti de l'équilibre, personne ne peut prédire ce qui va advenir. Le méthane provient des rizières et, comme on dit pudiquement aussi, de la fermentation entérique des ruminants et aussi des émanations de gaz naturel. En tant que gaz à effet de serre, il est beaucoup plus efficace que le gaz carbonique. Mais sa durée de vie dans l'atmosphère est inférieure à 10 ans. Si on savait arrêter les émissions de méthane, le problème serait résolu en un rien de temps. Troisième effet important pour le CO2 et le réchauffement global, la déforestation qui touche aujourd'hui principalement la forêt primaire amazonienne et africaine au rythme de 150 000 km² par an, c'est-à-dire la surface de la France tous les 3 ans. Alors, le scénario du réchauffement global est assez simple. L'intensification des activités humaines qui a débuté il y a 2 siècles, 212 ans, le 14 juillet 1789, s'est traduite par une consommation énorme d'énergie fossile pour l'industrie, les transports, le chauffage. Ça se traduit par un rejet dans l'atmosphère de 5,5 milliards de tonnes de carbone par an et un changement d'utilisation des sols avec l'agriculture extensive et la déforestation qui rajoute encore 1,5 milliard de tonnes de carbone par an. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère s'en trouve donc accrue. L'énergie solaire absorbée par le système Terre augmente. Cela entraîne une augmentation de température de surface de l'océan, l'élévation du niveau de la mer. Et la principale conséquence en fait, du réchauffement des basses couches de l'atmosphère, c'est un accroissement de l'évaporation et donc une accélération du cycle de l'eau. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que si on a davantage de nuages, ça peut vouloir dire davantage d'effets de serre, mais aussi davantage d'effets parasols. Et donc, il y a là une inconnue, quelle va être ce qu'on appelle la rétroaction de l'eau. Est-ce qu'elle va accroître le déséquilibre climatique ou est-ce qu'elle va restreindre le déséquilibre climatique? Il y a d'autres inconnues, le rôle des aérosols. Est-ce qu'il y a des effets non linéaires, des effets de seuil à partir duquel le système bascule? Est-ce qu'il y a des phénomènes de rétroaction positive ou négative que nous n'avons pas encore identifiés qui vont s'interposer ou au contraire amplifier le déséquilibre climatique? Ce sont des questions qui sont du domaine de la recherche. Mais là aussi, les satellites sont indispensables pour quantifier le changement, mesurer l'impact et éventuellement anticiper des surprises climatiques. En chiffres, donnons quand même quelques chiffres, la variation du bilan radiatif entre 1900 et 2100 peut être la suivante. L'intensification des émissions anthropiques de CO2 et d'autres gaz renforce directement l'effet de serre de 5 watts par mètre carré. Mais il y a un effet d'amplification par la rétroaction de l'eau, avec un renforcement total de l'ordre de 15 watts par mètre carré ici, ce qui devrait correspondre à un réchauffement planétaire de l'ordre de 3 degrés environ. Les modèles diffèrent entre 1,5 et 5 degrés. On ne sait pas encore bien calculer les effets directs et surtout indirects des autres émissions anthropiques, celles de dioxyde de soufre ou d'autres particules, les suies, les poussières, etc. Mais on peut imaginer que d'ici 2100, l'effet parasol, de l'autre côté, soit renforcé de 3 watts par mètre carré. Et il peut aussi y avoir une diminution de la couverture nuageuse qui ferait diminuer d'autant l'effet parasol. Donc on est assez dans l'incertitude sur ces chiffres. Alors voyons ce que donnent les mesures, puisque les modèles ne nous renseignent qu'imparfaitement. La température moyenne globale de la Terre, c'est une grandeur qui ne se mesure nulle part. Il n'y a pas un endroit où il y a une température globale de la Terre. Mais on fait des calculs, des pondérations complexes, on fait des moyennes, et on a un constat qui est très clair. Tout ça, c'est des mesures faites par des thermomètres. Les mesures qui sont faites depuis 150 ans confirment une croissance de 0,6 degrés, nettement accentuée dans les dernières années. Et l'année 98 est considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1000 ans. Si on se reporte justement aux températures moyennes de l'hémisphère nord au cours des 1000 dernières années, dérivées d'indicateurs cette fois comme les cernes d'arbres ou les coraux, les carottes de glace, la tendance à la hausse n'est pas moins claire. Il y a ici une barre d'erreur, certes, mais on n'a jamais vu une croissance de la température aussi importante dans les 1000 dernières années. Un bon moyen de vérifier la validité de ces observations serait de mesurer effectivement la variation du bilan radiatif de la Terre par rapport à l'équilibre antérieur. S'il y a, en principe, le bilan radiatif au sommet de l'atmosphère doit être nul. Sinon, la Terre se réchaufferait ou se refroidirait et ça se saurait. Du fait de l'effet de serre additionnel, on devrait maintenant détecter un excédent du bilan radiatif. Si on en croit les chiffres qui ont été donnés plus haut, cet excédent pourrait atteindre une dizaine de watts ou une quinzaine de watts pour un doublement du CO2 à comparer aux 342 watts par mètre carré du rayonnement solaire incident qui était sur le schéma précédent. Mais cette performance, elle est malheureusement hors d'atteinte des instruments de mesure actuels. On ne saura pas mesurer 10 watts de différence sur une période d'un demi-siècle ou un siècle. La mesure de la variation du bilan radiatif de la Terre, qui est la seule mesure directe possible en théorie, est impossible en pratique à ce degré de précision. Il y a la dérive des instruments, la complexité de l'étalonnage à bord des satellites, il y a toutes sortes de causes d'erreurs aussi, qui font qu'on doit se contenter d'essayer de détecter une tendance avec une mesure continue sur de nombreuses années. Alors, sans quantification de l'échelle des couleurs, les valeurs rouges sont les valeurs fortes, les valeurs violettes ici sont les valeurs faibles. Vous avez une carte des valeurs moyennes annuelles en haut et des extrêmes saisonniers de janvier et de juillet qui illustrent à la fois ces extrêmes du cycle annuel pour le rayonnement solaire absorbé à gauche et pour le rayonnement infrarouge émis par la Terre à droite qui ont été mesurés par le radiomètre Scarabée sur un satellite russe en 1994-95. Le bilan radiatif, c'est la différence entre ces deux termes, c'est-à-dire entre la puissance solaire absorbée et la puissance infrarouge émise. Alors, ceci, ce sont encore une fois la moyenne annuelle, la moyenne de janvier, la moyenne de juillet, avec la même façon les valeurs rouges qui représentent les valeurs élevées, en violet, les valeurs faibles. Si on regarde simplement la moyenne annuelle, parce qu'on n'a pas le temps de commenter tous ces détails, on voit que le bilan est positif sur les régions équatoriales, qui absorbent plus d'énergie solaire qu'elles n'émettent de rayonnement infrarouge vers l'espace, et c'est l'inverse dans les régions polaires, mais aussi sur le Sahara, ou sur les régions couvertes de nuages bas, comme la Chine, ici. Ces figures donc, vous donnent une idée de la complexité des effets qui affectent le bilan radiatif global. Si on veut regarder le bilan radiatif global, il faudrait moyenner toutes ces valeurs, qui elles-mêmes sont déjà le résultat de 500 000 mesures sur une année, et les moyenner sur toute l'année et sur toute la Terre. Les mesures de Scarabée ont été répétées sur un autre satellite russe en 1997-98. Il y a des instruments américains analogues qui assurent la surveillance de ce paramètre. Ces mesures sont un défi métrologique et je crois qu'il faut saluer la rigueur scientifique et technique et la persévérance des chercheurs et des ingénieurs qui essayent ainsi de traquer le watt par mètre carré pour voir si ça se réchauffe. Alors, autre incertitude, j'ai cité les aérosols atmosphériques, les poussières et les particules d'origine variée, dont on ignore si elles auront globalement un effet atténuateur ou amplificateur du réchauffement. Jusqu'ici, on ne disposait pas de moyens de mesurer le contenu de l'atmosphère globale en aérosols de différentes catégories. Depuis quelques années, nous avons eu l'instrument Polder, un instrument français sur un satellite japonais, qui a la particularité de déterminer les caractéristiques directionnelles et de polarisation du rayonnement sortant. Et au cours de sa courte vie, en 1996-97, c'est le satellite qui est mort, c'est pas l'instrument, sa capacité unique à cartographier de manière globale les aérosols, aussi bien sur les continents que sur les océans, en discriminant des aérosols désertiques, qu'on voit ici au-dessus du Sahara, pas si on voit grand-chose d'ailleurs, les aérosols marins, qu'on voit au-dessus des océans, et puis les aérosols de pollution, comme ce qu'on peut voir ici. et les résultats de la combustion, par exemple, de forêts, de la biomasse, qu'on voit également au-dessus de l'Afrique ou au-dessus de l'Amazonie, et qui se répartit selon un indice qui va ici du bleu jusqu'au rouge, selon qu'on a affaire à des aérosols de petite taille ou au contraire des particules assez grosses. On aura un nouvel instrument Polder à partir de 2002. Une autre observation innovante a été faite par l'instrument canadien MOPIT, embarqué sur la plateforme américaine EOS Terra. On voit sur cette animation la dispersion du panache de monoxyde de carbone, qui est le gaz qu'on appelle CO, résultat d'une combustion incomplète émise par les feux de biomasse au-dessus de l'Afrique, mais aussi au-dessus de la forêt amazonienne, on doit le voir ici, mais aussi par la pollution urbaine au-dessus des régions continentales, l'Europe, les États-Unis, et si on n'a pas sens de traverser tout le Pacifique, de l'Asie. Ces mesures ont été prises entre mars et décembre 2000. On voit que ce genre de pollution affecte rapidement toute la planète. Les sources d'émissions sont très localisées, mais le panache de pollution se répand sur toute la Terre. On prépare pour le proche avenir des capteurs spatiaux capables de mesurer le contenu en gaz carbonique de la colonne d'air avec une précision de 2 à 3 parties par million. Et ceci, ça permettra de cartographier les émissions de carbone, de distinguer la pollution industrielle et les feux de biomasse, de mesurer les puits de carbone. Et tout ça, ce sont des enjeux de grande importance dans la perspective des négociations internationales qui sont actuellement un petit peu en panne du fait de l'attitude de M. George W. Bush. Alors, parmi les prévisions chiffrées, celle qui concerne l'élévation du niveau de la mer est plutôt inquiétante. On parle d'une montée des eaux qui peut atteindre 90 cm d'ici 2100. Le suivi du niveau de la mer peut s'effectuer le long des côtes, à l'aide d'instruments qu'on appelle marégraphes, mais on ne sait pas séparer localement les mouvements propres de la croûte terrestre de l'élévation réelle du niveau de la mer. Par contre, l'altimétrie spatiale rencontre globalement et avec précision de ce paramètre. De 93 à 2000, Topex Poséidon, dont j'ai déjà parlé, a mesuré une élévation du niveau global des océans de l'ordre de 20 mm, ce que vous voyez ici, c'est la courbe qui est en bleu. Le parallélisme de cette courbe bleue avec la courbe rouge, qui est la température de surface de la mer, pendant la même période, avec la signature d'ailleurs de l'épisode El Niño de 97-98, correspond bien au fait que l'élévation actuelle du niveau de la mer est surtout le résultat de la dilatation thermique de l'océan superficiel, auquel s'ajoute partiellement le retrait des glaciers continentaux. On ne s'attend pas à une contribution significative des glaciers polaires, au contraire, ces derniers pourraient dans un premier temps grossir d'un apport accru de neige, puisque avec l'évaporation accrue, il y aura davantage de précipitations, davantage de neige, et ce qu'on semble d'ailleurs observer au-dessus du Groenland. Il y a plusieurs satellites en projet qui visent à surveiller les zones glacées de la planète. La mission européenne ERS1 a déjà permis de déterminer la topographie de la calotte antarctique avec une résolution ici de 2 km. Le dôme culmine à 4100 mètres. La précision avoisine le mètre pour la précision de l'altitude. Ce sont des informations qui sont utilisées dans les modèles pour déterminer les vitesses d'écoulement de la glace, qui sont très importantes pour savoir si tout ça va tomber à l'eau. Les vitesses d'écoulement de la glace, vous les avez illustrées ici, cette figure nous montre que 80% du drainage est effectué en fait seulement par quelques pourcents du pourtour côtier de l'Antarctique. L'effet d'une variation climatique peut être alors plus rapide que ce que l'on pensait jusque-là, on croyait que tout s'écoulait tranquillement, pas du tout. Il y a des fleuves, littéralement, de glace qui s'écoulent, et ces fleuves sont beaucoup plus réactifs que la glace stagnante. Et on comprend que, donc l'intérêt de telles observations qui sont parfaitement impossibles en l'absence de satellites. Pour illustrer un peu la puissance de l'interférométrie radar, une technique que j'ai mentionnée tout à l'heure, voilà un zoom sur un système de drainage qui est le glacier Lambert, un des plus rapides du monde. En haut, vous avez l'image SAR qui montre les bras des glaciers qui convergent, et en bas, l'image interférométrique qui fait apparaître les déplacements survenus entre deux prises de vue radar à un jour d'intervalle qui ont servi à former cette image interférométrique. Les franges que vous voyez, les franges colorées, sont d'autant plus proches que la vitesse est plus élevée. Donc vous voyez là, ici ça va très vite, et là par contre, les franges sont éloignées, ça ne bouge presque pas. On voit bien que le drainage passe uniquement par les fleuves et que la glace environnante, par ici ou par là, est statique. La vitesse dans le bras principal du glacier atteint 600 mètres par an contre quelques mètres pour la glace sur les côtés. Encore un petit coup d'œil du côté des calottes polaires pour observer la dérive des glaces autour de l'Antarctique, avec ici, je vous laisse vous amuser à regarder, le mouvement de deux immenses icebergs, et ça me donne l'occasion de boire un verre d'eau. Ça, c'est une animation qui se déroule sur une quarantaine de jours en 1999, à partir d'un satellite polaire américain. Bon, résumons-nous. On assiste aujourd'hui au début d'un changement climatique de grande ampleur. On observe d'ores et déjà l'empreinte du changement sur la température moyenne de l'atmosphère, la surface de l'océan, l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers continentaux, la diminution des surfaces enneigées, une accélération du cycle hydrologique, et on s'attend aussi à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes. Par contre, on est dans l'incertitude en ce qui concerne l'évolution de la nébulosité, les aérosols, on ne sait pas clore le bilan du carbone émis dans l'atmosphère, dont on ignore comment il se répartit entre le continent et l'océan. Donc, tout ce qu'on balance dans l'atmosphère, on n'en retrouve que la moitié. Le reste part quelque part, l'océan, la végétation, mais on ne sait pas très bien. On ignore si la circulation océanique va être modifiée et quand, et ça peut être très, très, très important. On ne sait pas quels seront surtout les effets du changement climatique à l'échelle régionale, qui est celle qui intéresse les gens, c'est là qu'on vit. Et on découvre beaucoup de nouvelles questions, évidemment, du fait de la recherche, au fur et à mesure que progresse notre compréhension du climat. En tout cas, une chose est certaine, les impacts de l'altération du climat affecteront tous les secteurs essentiels de l'activité humaine. Il faut donc nous préparer à vivre avec et, si possible, à anticiper les risques climatiques. Cela suppose de se doter de moyens d'observation globaux permanents et d'outils de modélisation capables d'assimiler les données des observations à des fins de prévision. Le coût de ces systèmes d'observation et de modélisation est une fraction infime des risques qui sont encourus. Par contre, le bénéfice attendu en termes de réduction de la vulnérabilité et de préparation et d'adaptation au changement sera d'autant plus grand que des dispositions adéquates ont été prises assez tôt. Malheureusement, on est encore loin de disposer d'un système d'observation global à la hauteur des besoins et des possibilités. Il y a une réduction en vogue des budgets publics, l'idéologie libérale ambiante qui prétend faire payer l'utilisateur en dégageant les États. Tout cela met en danger l'existence des systèmes d'observation existants, au sol ou par satellite, et freine la mise en place de nouveaux moyens d'observation. Là, vous avez simplement le système d'observation global météorologique qui sera disponible à l'horizon 2010, avec un certain nombre de satellites en orbite géostationnaire et 3 principaux satellites en orbite polaire, 2 américains, NPOS, et un satellite européen, METOP. Mais tout ça, ce n'existe pas aujourd'hui. Nous avons des embryons de tout cela. Ça devrait exister en 2010, si tout va bien. Mais mis à part ce système de satellites météorologiques opérationnels, tous les résultats que j'ai exposés proviennent de satellites expérimentaux, qui sont tous des satellites sans garantie de continuité. On appelle ça one shot en anglais, c'est-à-dire on les lance une fois et puis après, on ne sait pas. L'espoir actuel serait de compléter au moins le système météorologique par des satellites d'observation océanique, dont Jason, qui sera lancé en septembre, est le prototype. Mais par exemple, même la continuité de mesure de l'ozone stratosphérique n'est pas assurée à ce jour à l'horizon des 15 prochaines années. Alors justement, chacun a entendu parler du trou d'ozone stratosphérique. Cette question ne relève pas au sens strict du climat, mais nous devrions en tirer quelques leçons. L'ozone est un gaz triatomique qui est formé par la recombinaison d'un atome et d'une molécule d'oxygène et qui absorbe le rayonnement ultraviolet solaire dans la stratosphère entre 20 et 50 km d'altitude. Des observations qui ont été effectuées dans le milieu des années 80, en 85, depuis une base antarctique, ont montré une destruction de l'ozone qui survient en octobre au sortir de l'hiver austral. Ce qui est amusant, c'est de remarquer que les mesures d'ozone par satellite, qui existaient depuis le milieu des années 70, n'avaient pas décelé ce phénomène, parce que les algorithmes automatiques de traitement avaient éliminé les valeurs qui étaient jugées aberrantes. Alors on a retraité les données du satellite d'un instrument américain qui s'appelle TOMS, et voilà la série qui va de 1979 à 1997, et on voit l'extension du trou d'ozone progressivement d'année en année, qui va jusqu'à pratiquement une disparition complète de l'ozone au-dessus de l'Antarctique pendant le mois d'octobre. Vous avez aussi une animation, je ne vais pas montrer que des choses américaines, qui montre les mesures effectuées par l'instrument européen GOM à bord du satellite ERS d'août à novembre 2000. Cela passe en boucle, on part du mois d'octobre, l'hiver austral se termine, le printemps commence, le soleil arrive, il éclaire la zone de l'atmosphère qui est prise à l'intérieur d'une circulation particulière qu'on appelle le vortex antarctique, à l'intérieur duquel se trouve piégé à la fois l'ozone et des composés chlorés qui accélèrent la destruction de l'ozone. Et puis à la fin de la séquence, le vortex se disperse et la situation redevient normale. Alors la cause du phénomène donc, a été identifiée, il s'agit d'une destruction catalytique de la couche d'ozone par des composés chlorés issus de l'industrie, les fréons, qui étaient utilisés comme fluide réfrigérant dans les réfrigérateurs et comme gaz propulseur dans les bombes à aérosols. Mais il y avait une solution de remplacement, heureusement, ce qui fait que les industries chimiques ont collaboré avec les gouvernements pour éliminer les fréons, et ça a fait l'objet de conventions internationales. Dans le cas du gaz carbonique, on n'a peut-être pas une aussi bonne solution à portée de la main. Alors voilà quand même une bonne nouvelle, après toutes les catastrophes que je vous ai annoncées. Ce schéma montre l'évolution de la charge prévue de la charge atmosphérique en composé chloré détruisant l'ozone, telle qu'elle résulte des engagements pris par les États. Si on n'avait rien fait, on aurait la courbe rouge qui est là. Avec le protocole Montréal qui a été signé en 1987, on a infléchi quand même la croissance exponentielle. Et puis, des décisions ont été prises à Londres qui ont été quand même nettement plus prometteuses, et à Copenhague en 1992. Ce qui fait que maintenant, on a bon espoir, si ces modèles sont exacts, la couche d'ozone devrait retrouver son intégrité d'ici environ 2070. Donc c'est une bonne nouvelle, mais elle nous fait quand même percevoir la difficulté qu'il y a à restaurer un équilibre qui est rompu par l'intrusion massive de composés à longue durée de vie dans l'atmosphère. Quelques décennies d'émissions des fréons, là, pendant le début des années 70, ont suffi pour nous mettre aux prises avec un siècle de destruction de l'ozone. Avec le gaz carbonique et le réchauffement global, nous sommes engagés pour plusieurs siècles de problèmes, quelles que soient les mesures que nous serons capables de prendre. La conscience de la nécessité pour l'humanité de se doter sur le long terme des moyens de surveiller le climat est partagée au plan mondial par les agences spatiales qui sont rassemblées dans un club, le CEOS, et par les responsables des systèmes d'observation non spatiaux qui ont mis en place un forum qu'on appelle IGOS pour établir une stratégie intégrée d'observation globale. En Europe, la Commission européenne, les agences spatiales se mobilisent aussi autour d'une initiative qu'on appelle GMES, ce qui veut dire surveillance globale de l'environnement et de la sécurité, et qui englobe tout à la fois des objectifs liés au climat, à la sécurité de l'environnement et aux risques naturels et anthropiques, avec une dimension européenne spécifique. Il faut espérer que tous ces efforts seront couronnés de succès et que l'on saura consacrer à la surveillance du climat une fraction non négligeable des sommes que l'on dépense pour le perturber. James Lovelock, qui est un chimiste britannique, a émis il y a plusieurs années l'hypothèse Gaïa, qui est bien connue, et qui attribue à la Terre les propriétés d'un super-organisme vivant capable d'entretenir des conditions optimales pour sa survie. Et il a suggéré que la Terre pourrait bien se débarrasser de l'espèce humaine si la perturbation devenait excessive. L'académicien russe Kirill Kondratiev estime quant à lui que le seuil de prélèvement des ressources, qui rend le système instable, et qui évalue à 1% de la production primaire nette de la biosphère, a été dépassé dès le début du XXe siècle, et que nous sommes aujourd'hui à un ordre de grandeur au-dessus, 10 fois au moins le seuil à partir duquel le système est déstabilisé. Alors peut-être devrions-nous prendre garde, pour reprendre une expression à la mode, à ne pas nous faire sortir du loft. Voilà, je voudrais conclure en remerciant vivement les nombreux chercheurs qui m'ont permis d'utiliser leurs résultats et leurs animations pour cette présentation, notamment Gérard Mégy du service d'aéronomie du CNRS, président du CNRS, François-Marie Bréon du LSCE à Orsay, Robert Candel et Michel Violier du laboratoire de météorologie dynamique à Palaiseau, Will Steffen, directeur du programme international Géosphère-Biosphère à Stockholm, Henny Kelder et Peter Valks du service météorologique des Pays-Bas, Christopher Reddings et Klaus Zenner de l'Agence spatiale européenne, Frédéric Rémy du LEGOS, laboratoire d'études géophysique et d'océanographie spatiale à Toulouse, Yves Ménard du CNES à Toulouse, Marc Leroy du Centre spatial de la biosphère, John Burroughs de l'Université de Brenn en Allemagne, John Gilly du Centre spatial Goddard de la NASA, Stan Wilson, Chief Scientist de la NOAA à Washington, et Séverine Klein, stagiaire CNES dans le cadre d'un DESS de l'Université de Strasbourg, qui m'a assisté ici dans la préparation de cet exposé. Je vous remercie de votre attention.
Pour un non-spécialiste, on est frappé des résultats remarquables à des échelles de temps et d'espace considérables, alors qu'un des inconvénients que vous avez noté est que pour une échelle de temps court et d'espace tout à fait restreint, on pourrait a priori penser que, au contraire, les prévisions seraient très valables et très faciles à obtenir.
Oui, les observations sont effectivement de bonne qualité et de meilleure qualité au fur et à mesure que on progresse actuellement. Ce qui est en peine aujourd'hui pour la prévision, c'est les modèles, parce que les modèles ont une capacité limitée d'assimilation des données. Il faut disposer d'ordinateurs très puissants pour résoudre les phénomènes auxquels on s'intéresse avec une bonne précision. Vous avez vu qu'on peut faire interagir dans les phénomènes du climat des échelles extrêmement petites, celles des aérosols, qui sont des particules microscopiques, avec des échelles extrêmement grandes, qui sont l'échelle complète de la planète. Et il est très difficile dans des modèles numériques de traiter simultanément les très grandes échelles et les très petites échelles. Les modèles numériques les plus avancés aujourd'hui utilisent des cellules pour leurs calculs qui ont une dimension de 250 km environ horizontalement, on va essayer d'améliorer ça, et quelques kilomètres verticalement. Comment est-ce qu'on peut représenter, par exemple, les nuages à l'intérieur d'une cellule de cette dimension par simplement un nombre? On voit bien que là, il y a une difficulté intrinsèque pour la modélisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes nos prévisions sont un petit peu obérées. C'est pour ça qu'on a besoin non seulement de modèles pour prédire, mais surtout d'observations pour voir ce qui se passe.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si on sait quel temps faisait-il le 14 juillet 1789, au moins sur Paris, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faisait,
Alors, il y avait un satellite qui s'appelait Bastille-Sat à cette époque-là, et il a observé qu'il faisait extrêmement chaud.
Hier après-midi, j'ai vu une émission sur la 5, je crois que c'était hier après-midi, où il était question des micro-organismes marins, et où il était dit que le réchauffement des eaux provoquait une modification totale de cette production, et qu'au lieu d'avoir les organismes qui nourrissent les poissons et enfin tout ce qui vit dans la mer, apparaissaient des organismes très différents et qui, eux, provoquaient une évaporation du gaz carbonique contenu dans l'eau de mer. Donc, avec des effets de serre accélérés. J'aimerais savoir votre idée sur la chose.
Alors, je ne suis pas un biologiste et je ne saurais pas vous répondre sur les détails de cette émission que je n'ai pas vue, mais effectivement, il y a aujourd'hui un très très grand nombre de mécanismes de rétroaction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui réagit en contre-coup à une impulsion particulière et pour lequel nous sommes encore dans beaucoup d'incertitudes. Vous avez cité ces organismes marins, il y a effectivement des micro-organismes, des phytoplancton, qui relâchent dans l'atmosphère des petites particules carbonées qui servent de noyau de condensation pour la formation des nuages et pour les précipitations. Et une des incertitudes, c'est comment est-ce que ces organismes vont influer et réagir au réchauffement superficiel de l'océan en relâchant davantage ou moins de ces particules carbonées et donc influencer de telle ou telle manière la nébulosité et par conséquent l'effet de serre et l'effet parasol. Tout cela, ça fait partie des incertitudes. La nébulosité, si on l'accroît ou si on la diminue, selon l'heure du jour où ça se passe, selon l'altitude où se forment ces nuages, selon les régions de l'atmosphère où ils vont se former, on aura des effets totalement différents. Ça fait partie aujourd'hui de toutes ces questions qui se posent. Et les rétroactions qui proviennent de la biosphère, c'est-à-dire de la vie, sont celles qui nous sont les plus difficiles à connaître. C'est pour ça que nous nous attendons encore à des surprises dans ce domaine-là.
Oui, bonjour. Il y a une idée aussi qui m'est venue en tête. Vous avez parlé de température de l'eau de la surface de la mer, mais aussi est-ce que la température profonde varie et à ce moment-là, que deviennent les courants marins qui régissent quand même une partie de notre climat?
Oui, alors c'est probablement que Pierre Bahurel parlera davantage de cela, de la circulation océanique demain, mais bon, il y a dans l'océan une circulation en boucle qu'on appelle un peu un tapis roulant, conveyor belt en anglais, qui à la fois se caractérise par des courants superficiels relativement rapides, les courants comme ceux dont j'ai montré une illustration, et aussi des courants profonds qui transportent des eaux profondes qui plongent par exemple dans les régions polaires vers les profondeurs de l'océan et qui, ces courants, circulent beaucoup plus lentement. On estime que le temps de circulation de ces océans, de ces courants à l'intérieur de l'océan est de l'ordre du millénaire. Ce qui fait que nous ne savons pas clairement aujourd'hui identifier comment des perturbations superficielles vont se transporter et à quelle vitesse dans la modification de la circulation profonde océanique. Mais ça fait partie des incertitudes aussi. J'ai dit parmi les incertitudes, il y a la modification de la circulation océanique. Si on modifie les conditions dans lesquelles se forment les eaux profondes dans les régions polaires, parce qu'on modifie par exemple l'apport d'eau douce qui produit des eaux légères, qui peuvent bloquer la formation de ces eaux profondes dans le nord de l'Atlantique, on peut avoir des modifications du climat tout à fait considérables, parce qu'à ce moment-là, ça influerait sur les courants superficiels eux-mêmes, et les courants adoucis que nous recevons aujourd'hui, qui font que notre climat est relativement doux par rapport à celui des régions de même latitude de l'autre côté de l'Atlantique, pourraient s'en trouver bouleversés, ce qui fait que le réchauffement climatique pourrait se traduire, par exemple, par un refroidissement considérable en Europe. Ça fait partie des petites incertitudes que nous avons.
Oui, vous avez parlé de situations exceptionnelles, notamment au niveau de taux de CO2, en disant que c'était une situation qui sortait d'un équilibre traditionnel. Il s'agit pratiquement d'une catastrophe, si on regarde la courbe, et je voudrais savoir si cette catastrophe est auto-emballante, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent faire qu'il n'y ait plus aucun moyen de revenir en arrière ?
J'aimerais bien le savoir. Effectivement, quand on sort d'un équilibre, on peut considérer qu'on est à l'intérieur d'un puits, par exemple, et qu'on est comme une bille qui se balade autour d'une position centrale équilibrée. Si on est dans cette situation, ça va bien. On peut sortir de l'équilibre et puis on va trouver un nouvel équilibre un petit peu plus loin où on va revenir peut-être un peu plus tard vers l'équilibre dans lequel on se trouvait précédemment. Mais il peut aussi qu'on sorte complètement des clous, si je puis dire, et qu'on bascule vers un autre état d'équilibre. Et là, nous ne savons pas. Alors, il y a des théoriciens qui font ce genre de calcul. Moi, je ne suis pas un théoricien, je suis un expérimentateur et je suis du côté des satellites. Mais ce que je sais de ce qui se publie dans la littérature, c'est que pour certaines personnes, il pourrait y avoir un mécanisme d'emballement qui produise, comme sur la planète Vénus, par exemple, à l'éjection complète de toute l'eau de la planète. Ça ne prendra pas 5 minutes, hein, ça prendra quand même quelques générations et même plus. Et qui aboutirait à un état d'équilibre où la température de surface moyenne de la Terre serait plusieurs centaines de degrés, peut-être. Bon. Je ne pense pas que nous ayons à craindre ce genre de choses, en tout cas pour les prochaines périodes de la vie sur la Terre. Mais personne ne peut exclure ce genre de choses aujourd'hui.
Merci, nous allons en rester là. Je vous demande de ne pas de remercier beaucoup M. Fellous et de ne pas venir l'importuner plus, compte tenu de son état de santé.